Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles. Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles écrite par votre serviteur, lue par des comédiens du cru et ponctuée de musique. Je vous la fais courte, une émission où les nouvelles sont bonnes, d'où qu'elles viennent. Ce jour-là, dans l'immense maison où nous vivions, on aurait presque pu s'attendre, au gré du hasard, à chaque jour découvrir de nouvelles pièces. Avec Marie, nous jouions souvent à cache-cache. Celui qui se cachait choisissait le niveau. Ma sœur avait une préférence marquée pour le sous-sol. Elle savait que j'avais peur du noir et de tout ce qu'il était supposé dissimuler. Les araignées et leurs toiles qui se collaient sur le visage et plein d'autres bêtes encore. Je comptais jusqu'à 50, je prévenais Marie que j'arrivais, et il me fallait descendre l'escalier éclairé par une pâle lumière jaune. Mais à chaque fois, j'attendais. Avec mon courage, ma peur et ma résignation, je finissais par poser le pied sur la première marche. Après l'escalier se présentait une sorte de couloir au sol en terre battue. Il desservait plusieurs cellules où s'entassaient des restes, des objets dont on avait probablement oublié la destination. La lumière ne parvenait pas jusqu'au bout. J'avançais à petits pas, osant quelques « T'es là ?» Les recoins restaient dans l'ombre. J'étais à chaque fois terrifié et paralysé. La terreur était extrême quand Marie, à mon insu, remontait sans bruit l'escalier et refermait la lumière et la porte. Un jour, que j'hésitais à partir à la recherche de ma sœur, mon père me proposa de descendre avec lui à la cave. Il me prit la main et tout sembla s'éclairer. Malgré tout, demeurait un sentiment d'étonnement que je n'aurais su formuler. Mon père me proposait de jouer avec lui. Cette première fois fut suivie de beaucoup d'autres, même si Marie renonça à ce lieu de cachette. Mon père m'expliqua qu'il allait m'aider à vaincre ma peur du noir. Il m'entraînait dans les coins sombres du sous-sol. Je devais me serrer contre lui. « Plus fort, me disait-il. » Un jour, il éteignit toutes les lumières. Ses bras m'entourèrent. Son ventre se soulevait contre ma joue. J'aimais sa force autour de moi. Sa voix chuchotait. « Ton papa t'aime. Ton papa te protégera toujours. » J'aurais pu m'endormir. Ses doigts massaient lentement mon dos. J'étais un corps apaisé. La cave et son humidité avaient disparu. Mais malgré plusieurs tentatives, je ne parvenais pas à descendre tout seul. « Tu dois être patient. Nous y parviendrons. » Le soir, je me couchais tôt. Souvent, je lisais. J'oubliais le silence de la maison. Je m'endormais sur mon livre. Un peu plus tard, mon père passait éteindre la lumière. Un soir, le noir se fit et la porte se referma, mais je n'entendis pas le bruit des pas s'éloigner dans le couloir. Après quelques secondes, mon père se glissa dans mon lit. Il se pressa contre moi. Je le sentis contre mon dos. Pendant plusieurs minutes, il resta silencieux et immobile. Je ne fis pas un geste. J'attendis. Comment aurais-je pu lui demander ce qu'il faisait là, dans mon lit? Il était là. Cela ne provoqua rien en moi. Ni inquiétude, ni angoisse, ni étonnement. C'était un fait. Dans mon esprit, les notions de normal, d'anormal n'existaient pas. « Il fait noir, me chuchota-t-il. Mais quand nous sommes tous les deux, personne n'a peur. Mon amour te protège. Nous sommes bien comme ça, blottis l'un contre l'autre. On ne craint rien. » Il prit ma main dans la sienne. Il la posa sur sa cuisse. Il était nu. La lumière du jour me réveilla. J'étais à nouveau seul dans le lit. Je m'étais certainement endormi avant qu'il parte. Les nuits suivantes, il revint dans la chambre. « C'est mieux que ce soit un lit, une place. Comme ça, nous sommes plus près l'un de l'autre. Tu devrais enlever ton pyjama. Tu risques d'avoir chaud. » Il se caressait avec ma main. « Plus tard, tu seras musclé comme papa. » Les nuits passant, les caresses, les contacts devinrent prolongés, plus insistantes, parfois presque violentes. Son souffle s'apaisait. Tout en se recroquevillant, il me serrait dans ses bras. Le bien et le mal ne s'étaient pas encore immiscés dans toute ma vie. Il restait des friches, des marges, des endroits vierges de toute règle. Nous vivions les jours comme si nous oublions les nuits. Je ne lisais rien dans le regard de mon père. Ses gestes, ses paroles accompagnaient un quotidien banal. Pour ma part, j'étais son enfant, son fils. Tout semblait normal, apaisé. Aujourd'hui encore, j'essaye de me souvenir, de faire revivre mes sentiments d'alors. Je ne parviens pas à ressentir le moindre ressentiment, le moindre reproche. Je ne peux croire que ce qui est arrivé n'a aucune influence sur celui que je suis aujourd'hui. Je prends parfois le temps de creuser dans ma vie pour mettre à jour cette période. Peut-être fais-je semblant de ne pas trouver. Je ne ressens pourtant aucune appréhension, aucune peur de découvrir ce qui pourrait me faire souffrir. J'en viens à me dire que celui qui me rejoignait la nuit n'était pas mon père. Je dois avouer que je ne redoutais pas la nuit qui s'annonçait, que je n'avais pas peur du bruit de la porte qui se refermait. Peut-être ce qui suivait était-il plus trouble, plus incertain. N'étions-nous que deux corps qui auraient trouvé ce qu'ils cherchaient ?
Il serait temps que l'homme s'aime. Depuis qu'il sème son malheur, il serait temps que l'homme s'aime. Il serait temps, il serait l'heure. Il serait temps que l'homme meure avec un matin dans le cœur. Il serait temps que l'homme pleure le diamant des jours meilleurs. Assez, assez, crient les gorilles, c'est assez. Arrêtez votre humanerie. Assez, assez, crient le désert et les glaces. Crie les épines hérissées, déclouez votre Jésus-Christ. Assez suffit. Il serait temps que l'homme règne sur le grand vitrail de son front. Depuis les siècles noirs qu'il saigne dans les barbelés de ses fronts, il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur, et dans sa bouche la salive de son appétit de terreur. Assez, s'aime, c'est peu dire, mais c'est là mon pauvre labeur. Je le dis à vos poils à frire, moi le petit soldat de beurre. Que l'homme s'aime, c'est ne dire qu'une paroles rebattues et sur ma dérisoire lyre. Voyez déjà, elle s'est tue. Mais voici que dans le silence s'élève encore l'immense cri. Délivrez-vous de vos démences, crie l'éléphant, crie le cri-cri. Crie le sel, le cristal, le riz, crie les forêts, le colibri, les clématites et les pensées, le chien jeté dans le fossé, la colombe cadenassée. Entendez-le, ce cri immense, ce cri, ce rejet, cette transe. Expatriez votre souffrance, crie les sépulcres et les nids. Assez, assez, fini.
Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Sinon, je peux vous tutoyer. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur l'appli, j'ai presque la note maximum pour le cunnilingus. J'aurais pu avoir 10 sur 10, mais une fois, j'ai oublié de me raser et la fille a prétexté que ça lui avait irrité la peau. Sinon, je me demande ce que je fais là. Si, je sais. C'est plutôt pourquoi ai-je accepté ce rendez-vous. Je vis seule depuis quelque temps. Je partageais ma vie avec un homme depuis plusieurs années. Ça se passait plutôt bien. C'est du moins l'impression que j'avais. Et puis un jour, il n'a plus eu envie de partager quoi que ce soit avec moi. Pour atténuer le choc, j'ai fait savoir auprès de mes proches que c'était d'un commun accord. Le commun accord est de toute façon une tromperie. Il y en a toujours un qui est d'accord avant l'autre. Il m'a fallu du temps pour refaire surface. Et puis, tant bien que mal, j'ai réussi à me faire une raison. Tout au moins, j'ai fait comme si. Je n'avais aucune raison de le quitter, je l'aimais. C'est idiot, mais avec son départ, c'est devenu une évidence. Les mois ont passé, je n'avais pas envie de grand-chose, surtout pas d'une nouvelle vie à deux. Mais après une hibernation post-rupture, j'ai à nouveau ressenti comme une envie, l'envie de désirer. Je l'ai laissé s'épanouir. Sinon, je suis pas loin d'avoir 10 sur 10 partout. Et puis j'ai été bien dotée par la nature. Je sais, on dit que la taille ne fait rien à l'affaire, mais esthétiquement, c'est important. Et puis ça donne envie. Tu verras. Je prends soin de mon corps. Je considère que c'est une marque de respect pour ma partenaire. Sinon, je ne l'écoutais plus. J'avais d'abord fait le choix de la rencontre traditionnelle, celle qui prend et demande du temps, celle de l'attirance mutuelle, celle du verbe, celle des regards, celle de la découverte, celle de l'envie de se revoir. Dès l'instant où j'avais décidé d'aller à la rencontre du monde, ces rencontres avaient lieu un peu partout. J'entrais dans les bars, je traversais les terrasses, j'assistais aux festivals, j'osais même les groupes de parole en me faisant passer pour une alcoolique repentie, une ancienne junkie. Je faisais de l'intérim comme vendeuse. Je rencontrais, je croisais le plus de monde possible. Au début, j'attendais, je laissais venir, je n'encourageais en rien. Sinon, je suis aussi bien notée pour ce qui est de la rigidité de mon érection. C'est important d'avoir un membre en bon état de fonctionnement. Pour éviter les troubles érectiles, en maintenant une bonne élasticité des corps caverneux, je ne fume pas et pour ce qui est de l'alcool, je suis abstinent une semaine avant. Ce qui me permet aussi de maintenir une érection de bonne qualité plus longtemps que la moyenne. C'est super important, surtout quand on tombe sur une qui est plus ou moins frigide. Mon hygiène génitale est parfaite. En plus, j'utilise les produits hypoallergéniques. Sinon, j'ai dû rapidement me rendre à l'évidence. Après plusieurs rencontres avec ou sans lendemain, je n'étais pas prête à me lancer dans une relation au long cours. Parler, respecter les codes, me forcer à sourire, écouter des autobiographies à longueur de rendez-vous m'épuisait, me déprimait. J'aurais voulu que les choses se passent comme ça, dans l'élan du désir, d'un seul coup me retrouver dans les bras d'un homme, ne rien dire, ne rien attendre, ne penser à rien. Laisser le temps et ses mains passer sur mon corps, laisser ses caresses et son désir me prendre, sans promesse, sans parole, disparaître dans l'abandon. Sinon...
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Thank you.
vous la fait courte, une émission où les nouvelles sont bonnes, d'où qu'elles viennent.
Ma grand-mère. Je me souviens de mes vacances en Bretagne quand j'étais petit. Mais vraiment petit. Autant dire tout petit. René Coty était président. C'est dire. Je ne l'ai pas connu personnellement. Un village de quelques centaines d'âmes, auquel une dizaine de hameaux étaient rattachés, était mon lieu de villégiature estivale. Un concentré de ruralité catholique dont les activités étaient rythmées par le son des cloches qui parvenaient jusqu'au hameau. L'âpreté terrienne, bénie par des prélats, se prélassant, régnait sur une immobilité parsemée de renoncements. La messe du dimanche les voyait tous comme un chapelet de viande rance entrer un à un dans l'église. C'était encore un temps où le dimanche avait ses habits. Les femmes, à petits pas pressés, surmontées d'une coiffe comme le signe d'une féminité prédestinée et insatisfaite, laissaient leurs robes retenir les regards traversés de regret. Les hommes, avant de pénétrer dans l'allée, encore imprégnés du parfum de l'encens de l'office du petit matin, se regroupaient sur le parvis et, les mains dans les poches de costumes étriqués, semblaient se parler. Ce monde m'était étranger, lointain et incompréhensible. Seule ma grand-mère partageait mon monde. Elle me souriait en me disant « T'en fais un sacré gamin !» Avec elle, j'occupais une place, j'existais dans cette contrée que la tendresse avait fui. Elle m'emmenait parfois au lavoir, qui se situait à la sortie du village. Nous y rejoignions d'autres femmes déjà affairées. Cette activité faite d'éclaboussures, de claquements, de frottements, de bouillonnements, d'apostrophes et de confidences, d'éclats et de connivences me laissait quoi? Je regardais ces femmes plonger leurs mains dans l'eau, parsemées de bulles et qui peu à peu devenaient bleues. Je devinais et enviais leur puissance, celle de leurs gestes, celle de leur envie que prolongeait le ruissellement. Je me souviens de ce jour où ma grand-mère avait transporté des draps jusqu'au lavoir. Ces draps, épais et rêches, qui traversaient les héritages, vous assuraient un gommage des fesses tout au long de l'année. Le tissu, d'une blancheur crème imprégnée de secrets, flottait sur la surface colorée. Ce jour-là, alors que l'après-midi s'achevait dans la fraîcheur, je restais seul au bord du lavoir avec ma grand-mère qui essorait le dernier drap. Profitant peut-être de mon innocente candeur, elle me raconta l'histoire de ces draps. Je n'aurais pas imaginé que des draps puissent avoir une histoire. Mon monde n'existait pas. J'étais le seul à le parcourir, hésitant et peuplé d'éphémères. Il échappait à toute description. J'aurais aimé le raconter et inviter cette femme qui me prodiguait tant de douceur. Je ressentais parfois cette impression que dans mon regard, elle en discernait les contours, peut-être même la profondeur d'où j'aurais pu lui tendre la main. C'est ma maman qui m'a donné ces draps. Tu ne l'as pas connue. Je ne pouvais concevoir que ma grand-mère ait une mère. Comme si le monde était né avec elle, comme si l'horizon pouvait être à portée de main. Ceux que j'aimais ne pouvaient qu'être proches. « Et ma maman, elle m'en donnera des draps ?» Elle me regarda en souriant. Sa main me caressa la joue. J'avais déjà remarqué qu'elle ne répondait pas toujours à mes interrogations. Du moins, pas avec des mots. La première fois que j'avais vu ces draps, ils se trouvaient dans une armoire, une de ces armoires qui écrasait l'espace comme omnipotente et méprisante. Elle semblait régner. Elle m'intimidait. La plupart du temps, elle se trouvait dans une chambre, dans le prolongement d'un lit surmonté d'un énorme édredon. Sur tous les lits reposait un édredon, une sorte d'énorme berlingot qui, chaque matin, à coups de grosses claques, était remis en forme. Mon édredon. J'aimais chanter « Mon édredon a un gros bidon ». Celui qui trônait sur mon lit était tout à la fois devenu un de mes terrains de jeu et un défi. Chaque soir, pieds nus, après avoir enfilé mon pyjama, je prenais mon élan depuis le bout du couloir. Chez ma grand-mère, il n'était pas interdit de courir. L'objectif était d'arriver au maximum de ma vitesse au pied du lit afin de retomber du plus haut possible sur l'édredon. Ce serait un succès si je parvenais à m'écraser en son milieu. Les premières tentatives furent des échecs parfois douloureux. Mauvaise appréciation des distances, impulsion hésitante, technique de réception approximative. Et puis un soir, d'une impulsion magistrale, tel un Bob Beamon de la literie, je réussis le saut parfait. C'est ainsi que je finis par retomber au milieu de l'édredon. Je m'y enfonçais profondément, comme la bouche molle d'un monstre marin à l'affût. Les bords se rabattirent pour m'engloutir. Je disparaissais dans l'épaisseur d'un autre univers. De là, je pouvais voir le haut de l'armoire, l'endroit où ma grand-mère rangeait les draps. Il me faisait l'effet de n'avoir jamais servi. Repassé et plié, avec un soin extrême, il paraissait tout droit sorti d'une vitrine. Des lingots de textile. Constitués d'arrondis, ils étaient rangés par trois. On les devinait lourds et épais. Je ne pouvais encore que les atteindre des yeux. Je voyais parfois ma grand-mère s'en saisir. Avec soin, et comme avec respect, elle glissait une main sous celui se trouvant en haut de la pile et posait l'autre sur le dessus. Elle l'extrayait ensuite de l'armoire. Ainsi plié, il représentait à mes yeux une certaine forme de perfection. C'était toujours avec un léger dépit que je le voyais être déplié, perdre de sa superbe. Recouvrant le matelas, des corps allaient se frotter contre lui, le froisser, le salir. Et je n'avais pas encore découvert tout ce qu'il était possible de faire dans un lit.
Je me réveille avec contrat, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain. Et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment dans les trous entrer, puisque la porte était fermée. Il me sourit et il me dit, t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Sur le téléphone, je fais le 17 et je donne. J'habite au rond de la rue des douches, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit, vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule, là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti, le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit, écoute-toi, donne-moi du nougat. Écoute-toi, donne-moi du nougat. Je dis, je vais vous en chercher. C'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap. J'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain, qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit, assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire, je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit, alors t'as fait quoi? Ben je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter les marches. Elle me fait, je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat.
En ce joli mois de novembre, les textes que vous avez eu le plaisir d'écouter vous ont été respectivement lus par votre serviteur, Maria Vitali, et Pierre Chédeville. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Habillage sonore, Jean Clarksville. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, bonne nouvelle, bonne nouvelle.